VOA Afrique,
le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir à tous, Abdourahmane Dia en direct de Washington pour cette édition de 18h30 en universel du mardi 3 septembre 2019 au sommaire. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa condamne les violences xénophobes qui secouent son pays depuis dimanche. La France dit attendre des actes du président congolais Denis Sassou Nguesso envers l'opposant Jean-Marie Michel Moukoko, condamné à 20 ans de prison. Rentré parlementaire en Grande-Bretagne, le Premier ministre Boris Johnson perd la majorité absolue et c'est toujours l'incertitude sur le Brexit. Ici aux États-Unis, un nouveau drame impliquant une arme à feu. Un garçon de 14 ans a abattu les 5 membres de sa famille dans l'Alabama. Ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports, mais tout d'abord le journal. La police sud-africaine a tiré des balles en caoutchouc aujourd'hui à Johannesburg pour prévenir de nouveaux pillages. Le président Cyril Ramaphosa a condamné des violences inacceptables contre les étrangers. Le point avec Eric Manirakiza.
Des commerces ont été brûlés la nuit dernière à Johannesburg. La vague de violence a débuté dimanche après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment dans le centre de Johannesburg, avant de se propager à d'autres quartiers, puis à Pretoria, la capitale. Des camions soupçonnés d'être conduits par des étrangers ont été incendiés dans le KwaZulu-Natal. Le président Cyril Ramaphosa a rompu le silence pour condamner ces violences xénophobes totalement inacceptables et a écrit sur Twitter « Je veux que cela cesse immédiatement ». Moussa Faki Mahamat, président de la Commission de l'Union africaine, a dénoncé des attaques abjectes. Le président nigérien Muhammadu Buhari s'est dit très inquiet et a envoyé un émissaire spécial. En 2015, cette personne avait été tuée dans des pillages de commerce tenus par des étrangers. En 2008, des violences xénophobes avaient fait 62 morts dans le pays.
Au Burkina Faso, 8 accusés au procès du putsch manqué de septembre 2015, jugés par contumace ce mardi à Ouagadougou, ont été condamnés à des peines allant de 10 à 30 ans de prison. Fatoumata Djengere a écopé de 30 ans ferme. Elle était poursuivie pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coups et blessures volontaires. Son époux, le général Djengere, a lui été condamné hier à 20 ans de prison. Selon le parquet militaire, elle a, dans une communication téléphonique, suggéré à son époux de créer une rébellion à partir de la zone de Pau, dans le sud du pays, quand elle a su que l'échec du putsch était évident. Au Mali, au moins 14 passagers d'une compagnie de transport privé ont été tués aujourd'hui dans l'explosion d'une mine artisanale au passage de leur autocar dans le centre du pays. Le bus assurait la liaison entre la localité de Douenza et Gao, la plus grande ville du nord du Mali. L'information a été confirmée par une source policière selon laquelle l'explosion, survenue à une trentaine de kilomètres de Douenza, a également fait 13 blessés. La France attend des actes du président Denis Sassou Nguesso envers l'opposant Jean-Marie Michel Moukoko, condamné à 20 ans de prison. L'annonce a été faite par Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, alors que le président congolais doit être reçu à l'Élysée. Yacouba Ouedraogo.
Je lui ai parlé de M. Moukoko et d'autres personnes en lui disant qu'on attendait de sa part des actes, a déclaré Jean-Yves Le Drian à l'issue d'une rencontre à Paris avec le président Denis Sassou Nguesso. Je le lui ai dit avec fermeté et je pense que le président de la République lui dira la même chose, a ajouté le chef de la diplomatie française. Le président congolais a eu son premier entretien bilatéral avec son homologue Emmanuel Macron sur la protection de la forêt et de la biodiversité du bassin du Congo. M. Sassou a réitéré son soutien à l'initiative pour la forêt de l'Afrique centrale, un partenariat lancé en 2015 par la Norvège. En juillet, l'ONG Greenpeace a demandé, je cite, « l'annulation de tous les blocs pétroliers dans la forêt humide de la République du Congo ». Selon elle, le Congo a ouvert à des appels d'offres l'exploitation pétrolière dans la cuvette et non en périphérie, comme l'affirme le président Sassou Nguesso. Le bassin du Congo abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde, après l'Amazonie.
Au Zimbabwe, des centaines de médecins ont entamé aujourd'hui une grève. Ils veulent que leur salaire soit calculé en fonction de la valeur du dollar américain afin d'enrayer la baisse vertigineuse de leur pouvoir d'achat.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson a perdu la majorité absolue au Parlement après la défection d'un député au moment même où il tentait d'imposer sa stratégie du Brexit à un Parlement en ébullition. Les précisions de John Lindon.
Nous avons promis au peuple que nous mettrons en œuvre le Brexit. Nous avons promis de respecter le résultat du référendum. Et nous devons le faire maintenant, ça suffit, a lancé le Premier ministre aux députés pendant la rentrée parlementaire dans une ambiance électrique. Alors qu'il s'adressait à la Chambre, le député Philippe Lee a quitté les rangs du Parti conservateur pour rejoindre ceux du Lib Dem, un parti hérophile, lui faisant ainsi perdre la majorité absolue. Le gouvernement conservateur poursuit de manière agressive un Brexit aux conséquences dommageables, s'est défendu Philippe Lee dans un communiqué. Des élus conservateurs hostiles à un Brexit sans accord s'apprêtent aussi à soutenir l'opposition. Certains souhaitent également contraindre le Premier ministre à demander un nouveau report du Brexit au 31 janvier 2020, au cas où aucun compromis ne serait trouvé avec Bruxelles d'ici au 19 octobre. Boris Johnson a prévenu qu'il ne va pas demander à Bruxelles un nouveau report. Si les partisans du no deal l'emportent, le chef du gouvernement pourrait présenter une motion pour organiser les législatives anticipées le 14 octobre.
Ici aux États-Unis, dans une toute dernière fusillade, un garçon de 14 ans a abattu avec une arme de poing les 5 membres de sa famille la nuit dernière en Alabama. Nathalie Barge.
Après avoir lui-même appelé la police, l'adolescent a reconnu avoir tiré sur les 5 membres de sa famille à leur domicile, a écrit sur Twitter le bureau du shérif du comté de Limestone, au sud de Nashville. Il aide actuellement les enquêteurs à localiser l'arme, un pistolet de calibre 9 mm qu'il dit avoir jeté à proximité, ont précisé les autorités. 3 personnes sont décédées sur place et les 2 autres ont succombé à l'hôpital où elles avaient été transportées dans un état critique. Cette dernière tuerie vient s'ajouter à celle du week-end au Texas. Un homme d'une 30aine d'années qui venait de perdre son travail a tiré sur la police et d'autres automobilistes faisant 7 morts et 22 blessés.
L'ouragan Dorian, qui se dirige très lentement vers le sud-est des États-Unis après avoir dévasté les îles de Bahamas, a été rétrogradé en catégorie 2 selon le Centre national des ouragans américains. Classé dans la catégorie maximale 5 au moment de frapper les Bahamas, Dorian a faibli avec des vents d'une vitesse maximale de 175 km/h. Il se déplaçait en direction de la Floride. Donald Trump a mis en garde la Chine contre la tentation de jouer la montre dans les négociations commerciales. « Pensez à ce qu'il arriverait à la Chine si je gagnais », a-t-il lancé dans un tweet. « Les termes de l'accord seraient bien plus durs », a-t-il menacé, prédisant une perte d'emplois et d'entreprises en Chine. Le président Trump a suggéré que la Chine préférait négocier avec une nouvelle administration afin de continuer, dit-il, d'arnaquer les États-Unis. La Chine a annoncé hier qu'elle déposait une plainte auprès de l'Organisation mondiale du commerce au lendemain de l'entrée en vigueur des droits de douane américains renforcés. Le président iranien Hassan Rouhani a exclu des négociations bilatérales avec les États-Unis. Il a averti que son pays réduirait, comme prévu, ses engagements en matière nucléaire à moins d'une percée dans les discussions avec les Européens d'ici 2 jours. Téhéran et 3 pays européens, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, tentent de sauver un accord conclu en 2015 et censé limiter le programme nucléaire iranien après le retrait des États-Unis en 2018 et le rétablissement de sanctions économiques américaines contre l'Iran. Des experts de l'ONU sur le Yémen ont fait état de la multitude de crimes de guerre qui auraient été commis par les diverses parties depuis le début du conflit. Personne n'a les mains propres dans ce conflit, a asséné l'un des experts de l'ONU, Charles Garaway, lors de la présentation d'un rapport aux médias. Un bon nombre des violations peut entraîner la condamnation de personnes pour crimes de guerre si un tribunal indépendant et compétent en est saisi, ont indiqué les experts dans un communiqué. La Cour européenne des droits de l'homme a condamné ce mardi l'Ukraine pour avoir empêché la construction d'un lieu de culte des témoins de Jéhovah sur un terrain que la communauté avait acheté. La Cour a expliqué dans un communiqué que l'Ukraine a violé l'article de la Convention européenne des droits de l'homme protégeant la liberté de pensée, de conscience et de religion. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Et c'est Nani Talani qui nous présente la Minute Éco.
L'économie de l'Afrique du Sud a rebondi au deuxième trimestre de cette année avec un taux de croissance de 3,1%. Ce rebond efface la baisse du premier trimestre et lui évite la récession. La forte reprise observée d'avril à juin est soutenue par les mines, la finance, le commerce et les services publics. Par ailleurs, les dépenses intérieures brutes de l'Afrique du Sud ont augmenté de 3% au deuxième trimestre après une contraction au premier trimestre. La Zambie devrait maintenir la part des redevances minières dans le budget 2020 à 7,5% afin de préserver la santé du secteur minier et promouvoir les investissements d'après la Chambre des mines. Le régime fiscal de cette année a porté le fardeau fiscal des mines à des niveaux insoutenables et non compétitifs. La Zambie a augmenté les redevances de 1,5 point et elle a introduit une nouvelle taxe de 10% lorsque le prix du cuivre dépasse 7 500 $ la tonne. Pour la Chambre des mines, la taxe sur les redevances minières devrait également être déductible des impôts pour les sociétés minières, car la rendre non déductible équivaut à une imposition sur les revenus non perçus. Terminons par l'entreprise française Engie qui a acheté la société africaine de l'énergie solaire à réseau Mobisol, employeur d'environ 500 personnes et quelques 1200 installateurs indépendants en Tanzanie, au Rwanda et au Kenya, où il a installé plus de 150 000 systèmes solaires domestiques. Cette acquisition ferait d'Engie le leader du marché africain dans ce secteur. La société compte déjà plus de 500 000 clients de systèmes solaires résidentiels dans plusieurs pays africains.
À présent, la page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
Le Sénégal éliminé du mondial de basket.
Oui, les Lions de la Teranga ont concédé leur deuxième défaite dans la compétition en s'inclinant face à l'Australie 81-68. Cette deuxième défaite élimine Maurice Ndou et ses partenaires du mondial chinois. Les deux équipes se sont donné coup pour coup. L'Australie a viré en tête à la pause grâce à un panier à 3 points, 36-33. C'est finalement à la fin du temps réglementaire que les Boomers ont creusé l'écart qui est passé de 10-13 pour un score final de 81-68. Avec cette deuxième défaite, le Sénégal ne verra pas le deuxième tour, tout comme l'Angola, le Nigeria et la Côte d'Ivoire, eux aussi éliminés après deux matchs. Les Américains, fragilisés par l'absence de leurs stars, sont passés à un chevet de la défaite dès leur deuxième match, s'imposant de justesse 93-92 après prolongation face à la Turquie.
La FIFA va diffuser des matchs africains de qualification au Mondial 2022.
Des matchs de qualification pour le Mondial 2022 de la zone Afrique seront diffusés par l'instance mondiale sur son site internet et sa chaîne YouTube. D'après la FIFA, plusieurs rencontres du premier tour des qualifications seront diffusées en direct entre demain et le 10 septembre. L'instance n'a toutefois pas la liste des matchs concernés. Ces rencontres préliminaires qui mettent aux prises 28 nations opposeront notamment le Togo aux Comores, la Gambie à l'Angola, le Zimbabwe à la Somalie ou encore le Burundi à la Tanzanie. La FIFA a été chargée par la CAF de la commercialisation des droits de diffusion des matchs de qualification au Mondial 2022 au Qatar et 2026 aux États-Unis, Canada et Mexique.
8 pays encore en course pour l'organisation du Mondial féminin 2023.
Après le retrait de la Belgique et de la Bolivie, 8 pays concourent désormais pour accueillir le Mondial féminin 2023 qui se disputera à 32 équipes. Fin juillet, la FIFA avait annoncé que face au succès retentissant du Mondial 2019 en France et pour favoriser la croissance du football féminin, son conseil a décidé de faire passer le format de la Coupe du Monde 2023 de 24 à 32 équipes. 8 pays dont l'Afrique du Sud se sont annoncés et ont jusqu'au 2 décembre pour confirmer leur intérêt et jusqu'au 13 décembre pour déposer leur dossier de candidature. Le pays hôte sera désigné en mai prochain.
Christian Coleman sera présent au Mondial d'athlétisme.
Le sprinteur américain prendra part aux Mondiaux Doha 2019 sur 100 mètres. L'agence antidopage américaine a retiré les charges qui pesaient sur Christian Coleman, soupçonné de 3 manquements au contrôle antidopage. L'homme le plus rapide de la planète depuis la retraite du Jamaïcain Usain Bolt ira à Doha dans la peau du grand favori de la compétition reine des Mondiaux.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Dia toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les avocats des généraux Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé ne sont pas d'accord avec la décision de la justice militaire. Les deux généraux ont été condamnés respectivement à 20 et 10 ans de prison ferme à l'issue du verdict du procès du coup d'État de septembre 2015. La partie civile, elle, est satisfaite de la décision, tandis que les populations sont divisées sur ce verdict. De Ouagadougou, la correspondance de Lamine Traoré.
Les deux cerveaux du coup d'État de septembre 2015 au Burkina, Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé, devront purger respectivement chacun 20 ans et 10 ans de prison ferme. Ils ont été jugés coupables d'attentat à la sûreté de l'État, de trahison, de meurtre, de coups et blessures volontaires, entre autres.
Pour notre part, il n'y a pas de trahison.
Maître Mireille Barry est l'avocat de Djibril Bassolé.
La trahison, c'est de porter des armes contre un État. Et comme tout le monde le sait, M. Bassolé n'a jamais porté d'armes contre l'État du Burkina Faso. Je ne peux pas décider si je fais appel. Il faut savoir que le dossier relève de la décision souveraine de M. Bassolé.
20 ans. C'est excessif.
Maître Mathieu Sommet est l'avocat du général Diendéré.
Nous critiquons la motivation du tribunal. L'attentat à la sûreté de l'État, ça qui est. Est-ce qu'il y avait un État légal? Nous avons posé cette question le 16 septembre. Le pouvoir qui était en place le 16 septembre était assis sur une charte et non la Constitution.
Par contre, la partie civile est satisfaite du verdict. Et ce procès est une victoire pour le peuple. Maître Prosper Farama, avocat de la partie civile.
Dans un procès, il n'y a jamais totalement la vérité, mais qui l'eût cru? Qui eût cru un jour que le général Diendéré, le général Bassolé et tous ces militaires qui, il y a quelques années de cela, étaient les hommes forts de ce pays, pourraient répondre à des questions de simples victimes? Pour nous, déjà, c'est ça, la victoire dans ce procès. Et ce que nous espérons, c'est que ce verdict, ce procès, soit le glas sonné. Pour tous ceux qui pensent qu'on peut accéder par la force au pouvoir au Burkina Faso, surtout un assassinat. C'est surtout ça notre grande satisfaction.
Les populations, elles restent partagées sur le verdict de ce procès. Amidou Ouedraogo, un habitant de Ouagadougou.
On se dit que nul n'est au-dessus de la loi, bien vrai. Dû à la crise actuelle que nous traversons, je pense qu'on devait attendre pour le moment, essayer d'avoir d'autres solutions, surtout en tant que des généraux du pays. Bon. On sait que pour le moment, on en a besoin de ces gens afin qu'ils puissent utiliser leur cerveau à notre défense.
Godefroy Sommet est aussi citoyen burkinabé.
Le verdict n'indique pas tout simplement, n'est-ce pas, la dureté des peines ou en tout cas, quelque part, sa passivité. Je pense que pour le symbole, ça valait la peine.
Le coup d'État manqué de septembre 2015 avait tenté de renverser le régime de la transition. Une transition entamée après l'insurrection populaire de 2014 qui avait chassé Blaise Compaoré au pouvoir depuis 27 ans. Le coup d'État manqué avait fait 14 morts et 270 blessés. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Washington, VOA Afrique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Afrique du Sud, des commerces tenus par des Africains ont été brûlés la nuit dernière à Johannesburg. Les violences xénophobes ont débuté dimanche après la mort de 3 personnes dans l'incendie d'un bâtiment dans le centre de Johannesburg, avant de se propager dans d'autres quartiers, puis à Pretoria, la capitale. Dans la province du KwaZulu-Natal, des camions soupçonnés d'être conduits par des étrangers ont été incendiés. Le président Cyril Ramaphosa a condamné ces violences totalement inacceptables, selon ses propres termes. Pour un état des lieux, Idriss Fall a joint Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg.
Les violences ont repris. C'est un peu surprenant parce que c'est comme une bombe à retardement. Il y a eu des situations de xénophobie ou afrophobie, je peux dire, depuis 2008 et ça s'est repris encore avant les élections. La population commence à s'attaquer aux magasins des étrangers. particulièrement, ils sont ciblés, et aussi des étrangers africains. Et il y a eu des cas dans le centre-ville, là, des personnes qu'on a pu brûler vives. C'est comme si c'est un peu orchestré, ça vient du cours à Pretoria, ça va dans les quartiers des périphéries du centre-ville. Il y a les quartiers comme Fordsburg, Mayfair, Heathrow, là c'est un quartier là vraiment où il y a beaucoup d'étrangers. Et la police est venue intervenir pour essayer de calmer la situation, mais c'est un peu incontrôlable parce que c'est une masse importante de gens qui viennent pour piller. Ça explique aussi une certaine forme de rancœur ou de colère, compte tenu du fait qu'il y a un peu la crise au niveau de ceux qui sont un peu désœuvrés.
Ça vient d'où et que font les politiques, les dirigeants de l'ANC, qu'est-ce qu'ils disent?
Quand nous regardons cela, même les journalistes, c'est un peu choquant puisque c'est comme si en dessous des cartes, il y a quelque chose qui s'est déjà préparé, fomenté pour faire en sorte que on puisse diminuer l'effectif du président en exercice. Il y a des querelles internes, de luttes internes au niveau du parti du ANC. Quand on fait l'état de la situation de la gestion des affaires de l'État, on voit qu'il y a eu beaucoup de gens qui étaient impliqués dans la corruption. Maintenant que le président cherche à résoudre le problème de corruption, on s'attaque à lui et c'est comme si on cherche à réduire son autorité.
Donc les violences ne vont pas s'arrêter de sitôt.
Bon, les violences vont s'arrêter parce que les gens qui sont en éduqués, du moment où quelqu'un se met pour leur dire non, arrêtez, oui, ça va s'arrêter. Mais là, nous avons peur de représailles maintenant des Sud-Africains qui sont dans d'autres pays africains. Des étudiants nigériens ou Nigeria qui disent que non, toutes les affaires des Sud-Africains, on leur a donné un ultimatum de 7 jours qu'ils doivent prendre leurs affaires et ramener en Afrique du Sud. Bon, c'est comme une forme de représailles maintenant. Ça, les politiques doivent s'atteler. Parce que si les politiques ne s'attellent pas sur cette situation, ça risque de dégénérer sur toute la région.
C'était Armand Bokoko, un habitant de Johannesburg. Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, le cabinet indépendant Shanghai Ranking Consultancy a publié récemment son classement annuel des meilleurs établissements d'enseignement supérieur dans le monde. Seules 15 universités africaines figurent dans le classement. Sur le continent, l'Afrique du Sud reste en tête. Quels sont les obstacles à un enseignement de qualité en Afrique? Le financement de la recherche dans les universités? Comment adapter l'enseignement supérieur aux réalités du marché de l'emploi? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook. Le secrétaire général de l'ONU a clôturé hier sa visite officielle en RDC. Antonio Guterres a visité l'est du pays en proie à l'insécurité et à la maladie à virus Ebola, qui a déjà fait plus de 2000 morts, avant d'échanger avec la classe politique congolaise qui reste divisée sur la légitimité des nouvelles institutions au pouvoir. Reportage de Thierry Kambondi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Cette visite, c'est une visite de solidarité.
Visite de solidarité qu'il conclut par une lueur d'espoir soufflant sur la RDC. Antonio Guterres s'est montré très satisfait de son premier séjour en République démocratique du Congo depuis l'avènement au pouvoir de Félix Tshisekedi. Un séjour qu'il a entamé fin août par l'Est, Goma et Beni principalement, deux des villes du Nord Kivu qui souffrent de la guerre et de la maladie à virus Ebola, deux des villes de l'Est de la RDC où sont basées l'essentiel des troupes de la MONUSCO, la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. Le secrétaire général de l'ONU a promis le renforcement des mesures qu'il veut plus efficaces des forces de l'ONU et a, concernant Ebola, appelé à la matérialisation des promesses de soutien pour éradiquer l'épidémie. Au plan politique, après près d'une heure et demie d'échanges avec le président de la République et des échanges avec quelques nouveaux responsables des institutions du pays, Antonio Guterres a également reçu une délégation de l'opposition, de la plateforme Lamuka particulièrement, qui a porté la candidature de Martin Fayulu à la dernière présidentielle. Devos Kitoko a fait partie de cette équipe.
Si le les Nations Unies font semblant, comme si la situation était normale en RDC, alors qu'au sommet de l'État, nous avons un président masque, c'est Félix Tshilombo, un président légitimement élu, Martin Fayoum, un ancien président, mais plus à la commande, mais qui contrôle la quasi-totalité des institutions, Joseph Kabila. Si on ne fait pas attention, au moment où cette situation va exploser, ça sera plus tard, et aucune intervention à travers le monde ne pourra remédier à la crise de légitimité que traverse notre pays.
La majorité au pouvoir, composée de la coalition FCC-CACH, a également échangé avec le secrétaire général de l'ONU. Elle a présenté l'alternance au sommet de l'État avec le départ de Joseph Kabila, puis l'avènement de Félix Tshisekedi, comme un modèle à suivre dans la sous-région. Jean-Marc Kabunda Kabun de l'UDPS Tshisekedi est l'un des responsables de la majorité parlementaire.
Nous avons souligné le fait que le Congo venait de faire un grand pas dans sa quête de la démocratie, donc avec l'alternance politique que notre pays a vécue. C'est inédit dans toute la région. Nous avons demandé à ce que la communauté internationale ne passe pas sous silence cet événement de taille qui pourrait même servir à d'autres pays dans la région.
Dans les rues de Kinshasa, c'est plutôt l'efficacité de la MONUSCO présente au pays depuis plus de 20 ans qui est remise en cause.
MONUSCO en RDC sur le plan sécuritaire ne fait pas bien son travail. Il devait travailler en collaboration avec les FRDC, mais généralement c'est pas ça ce qui est vécu.
Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Les rythmes africains se répandent dans le monde. Aujourd'hui, il n'y a pas que la diaspora qui danse au rythme de l'afrobeat, qui suscite un intérêt dans le secteur musical et qui influence les marchés de l'Occident. C'est un récit d'Arzuma Compaoré.
Les rythmes pop d'Afrique atteignent des endroits de plus en plus éloignés et figurent sur des playlists aussi loin que Washington. Physoïde habite à Washington DC.
Ma chanson préférée c'est Follow You. Ouais. Yeah.
Connu sous le nom d'afropop ou d'afrobeat, le genre musical autrefois réservé aux cercles africains a gagné du terrain en Occident. Mercy Chikowore est publiciste.
C'est vraiment formidable de voir des artistes que nous connaissons en Afrique être joués à la radio à New York, à DC ou dans une station de radio de l'Iowa. Et les gens sont vraiment attirés par cette musique.
Ces dernières années, des collaborations transatlantiques avec des stars de hit parade américains tels que Chris Brown, Drake et Rick Ross ont fortement contribué à l'essor de l'afrobeat.
Pourquoi la vie était si compliquée? J'ai tellement aimé, vraiment, je n'ai pas tué que...
Et travailler avec des artistes internationaux célèbres signifie souvent une chance d'être connu mondialement, a déclaré la star camerounaise Salatiel, qui a récemment travaillé avec Beyoncé sur la bande-son du film Le Roi Lion.
Comme ça, pour notre amour, j'étais prêt à vivre très pas jusqu'à la gare.
Singing on the same song with Beyoncé and
exécuter une chanson avec Beyoncé et Pharrell Williams, cela signifie beaucoup plus de visibilité. Les gens vont se demander qui est cet artiste nommé Salatiel et comment se fait-il qu'il soit sur cet album.
Plusieurs groupes africains ont signé des contrats avec de grands labels américains. Iceberg Slim, musicien nigérien.
Ils veulent de ce contenu local parce qu'ils ne l'ont pas là-bas. Nous devons leur donner l'Afrique, en particulier le Nigeria. Nous devons leur partager notre culture. Il est donc primordial pour nous de nous en tenir à nos sons et à notre culture.
Une chose est sûre, l'afrobeat s'est déjà installé au-delà des frontières africaines, séduisant les fans de plus en plus nombreux.
C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Joselle Morissin, à la console, Joubert Al-Tayeb, présentation, Abdourahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook et sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. Au revoir.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM, Kledou FM Bamako, Raga FM Goma, 96.5 Fraternité FM, Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.